Chapitre 50. Voyager dans la Slif était une expérience unique. Même en cherchant bien, Richard ne voyait rien de comparable dans sa vie. Chaque fois, c'était en même temps familier et totalement inédit. Un mélange de sérénité au sein d'une éternité caressante et d'excitation due à une incroyable sensation de vitesse. Richard continua à tenir la main de Callan et de Nietzsche. Avec un peu de chance, les deux mordecites ne briseraient pas la chaîne. Dans la Slif, il n'y avait rien à voir. Dès qu'il les fermait, des couleurs défilaient devant les yeux du sourcier, mais lorsqu'il les ouvrait, seules les ténèbres l'entouraient. Fasciné par ces lumières kaléidoscopiques, Richard ferma les yeux pendant presque tout le voyage. De toute façon, dans la Slif, il n'y avait aucun moyen de mesurer le temps, exactement comme au sein du royaume des morts. Durant son séjour chez le gardien, le sourcier aurait été incapable de dire s'il était mort depuis quelques jours ou une éternité. D'ailleurs, une éternité et quelques jours, c'était la même chose de l'autre côté du voile. Les fois précédentes, quand il lui demandait combien de temps avait duré le voyage, la Slif avait toujours répondu qu'elle était assez longue pour arriver à destination ou une chose dans le genre, prouvant qu'elle n'avait aucune notion du temps. Richard mit cette parenthèse à profit pour revoir en détail son plan. Le décortiquant, il ne lui trouva aucun défaut majeur. Quant aux alternatives, même si ça le désolait, il n'y en avait pas. Il était le messager de la mort, le seul capable de remplir cette mission. Les prophéties et les manuscrits soleillens l'affirmaient et il comprenait très bien pourquoi. Respirer du vif argent était une expérience paradoxale. Tant qu'on n'y pensait pas, ça se révélait plutôt agréable. Dès qu'on songeait à ce qui vous emplissait les poumons, on en avait les sangs glacés. Soudain, autour de Richard, les ténèbres furent remplacées par un tourbillon d'ombre et de lumière.
Respire !
C'était la Slif, lui rappelant qu'il devait expirer le vif argent et inspirer de l'air. À la fin de ses précédents voyages, Richard avait toujours eu envie de garder en lui le fluide chaud de la Slif. La première goulée d'air était si douloureuse. Cette fois, il ne songea même pas à bloquer sa respiration tant l'urgence l'aiguillonnait. Dès que sa tête eut émergé du vif argent, il expira, puis s'emplit les poumons d'air avec une voracité sans borne. Même la douleur atroce ne parvint pas à le détourner de son objectif. Haletant mais de nouveau habitué à l'air, il regarda autour de lui. Les quatre femmes étaient là, et toutes avaient rejeté le vif argent de leurs poumons. Prenant Callan par la taille, Richard la fit passer par-dessus le muret, puis il entreprit de sortir du puits. Une main se referma sur son poignet pour l'aider. Nathan ! Une seconde main saisit son autre bras. Rika ! Bien qu'il eût encore un voile devant les yeux, Richard vit que la mordecite portait son uniforme rouge. Jamais un très bon signe, ça. En revanche, voir Nathan et Rika était plutôt encourageant. Au moins, Sulla Canéanis Arc n'avait pas encore conquis le palais du peuple. Le prophète et la mordecite aidèrent Richard à s'extraire du puits. Une chance parce que la souillure le vidait de plus en plus de ses forces. Nietzsche et les deux mordecites étaient déjà sortis. Pliée en deux, la magicienne tentait de reprendre son souffle. Appuyée au muret, Cassia se livrait au même exercice. Elle aussi essoufflée, Val toucha sa natte blonde et s'émerveilla de la découvrir sèche alors que du vif argent dégoulinait. « Merci, Slif, » dit Richard en se tournant vers le puits. « Pour l'instant, j'aimerais que tu restes ici au cas où j'aurais encore besoin de voyager. » Un grand sourire fendit le visage de vif argent.
« Tu es satisfait, maître ?»«
Oui, comme d'habitude. » Contente de cette réponse, la créature confirma qu'elle ne s'en irait pas. Puis sa tête se fondit au vif argent et la surface devint aussi lisse et calme qu'un miroir. « Pourquoi aurions-nous encore besoin d'elle ?» marmonna Callan. « Qui peut le dire ?» éluda Richard. Avec un peu de chance, sa femme n'insisterait pas. De fait, elle se tourna vers le prophète. « Nathan, que faites-vous ici ?»«
Je suis venu vous accueillir, tes compagnons et toi. »
répondit le prophète en faisant de la main le genre de salut qu'un roi adresse à une foule. La crinière blanche de Nathan cascadait sur ses épaules comme d'habitude, et ses yeux bleus avaient la même qualité hypnotique que le regard de tous les râles. Rasé de près, il portait toujours aussi beau malgré son âge. Près de 1000 ans, après avoir passé la plus grande partie de sa vie au palais des prophètes, sous la protection du sort qui ralentissait le temps. Dédaignant la tunique traditionnelle des sorciers, il portait des bottes montantes, un pantalon noir et une veste vert foncé sur une chemise blanche à jabot. Glissé dans un superbe fourreau, une épée battait sa hanche. Un sorcier de son envergure n'avait aucun besoin d'une arme, mais chez lui c'était une coquetterie. Au palais des prophètes, il avait été contraint d'adopter la tenue classique des sorciers. Enfin libre, il se régalait de ressembler aux aventuriers qui peuplaient les pages des romans qu'il adorait. Parce qu'il n'avait jamais eu de véritable enfance, supposait Richard, son ancêtre la vivait maintenant, quelques 10 siècles après être venu au monde.
« Où est ton épée, mon garçon ?» demanda le prophète, visiblement inquiet.
« J'ai dû la laisser en arrière. Dans la slif, je ne pouvais pas l'emporter. »«
Vraiment ?»
se contenta de souffler Nathan. Après avoir salué Cassia et Val de la tête, Rika se concentra sur Richard.
« Seigneur Al, si je puis me permettre de demander, où est Kara, elle devrait vous protéger ?»
Richard sentit sa gorge se serrer. Avant qu'il ait pu répondre, Cassia saisit la gielle qui pendait à son cou et lui brûla la politesse.
« Elle est avec nous, en un sens. Kara est morte comme nous le souhaitons, tout en défendant le seigneur Ral. Je porte son agiel pour que son souvenir demeure avec nous et afin de m'inspirer de sa force. »
Pour toute réaction, Rika tressaillit imperceptiblement.
« Et vous deux, où étiez-vous pendant tout ce temps ?»
demanda Rika à Cassia et à Val. On eût dit une mère mécontente parce que ses enfants avaient raté l'heure du dîner. Richard répondit à la place des deux morts de site.
« Avec d'autres sœurs de la Giel, elles ont été capturées par un homme qui les a forcées à le servir. Celui qui sera bientôt ici pour nous tuer tous. Vika exceptée, toutes ces autres femmes sont mortes, certaines en combattant pour moi. »
Rika s'adoucit un peu.
« Contente que vous soyez de retour pour nous aider à protéger le seigneur Ral et la mère inquisitrice. »
Cassia eut un petit sourire.
« D'après mon expérience, ils en ont rudement besoin, en particulier le seigneur Ral, qui ne ferait pas de très vieux os sans une mort de site pour veiller sur lui. »«
Nathan, » dit Richard, « comment as-tu su que nous venions ?» Le prophète haussa les épaules comme si c'était une question idiote.
« Une prophétie m'a annoncé votre arrivée. Au cas où tu l'aurais oublié, fiston, c'est ma spécialité. Du coup, nous sommes venus vous attendre ici. »
Richard n'aima pas beaucoup cette histoire.
« Une prophétie ?»«
Oui, bizarrement, elle m'arrive par flot ces derniers temps. Des prédictions sur tous les sujets. C'est très excitant. » En quelques semaines, j'ai eu plus de visions que durant toute ma vie. Pour être franc, c'est extraordinaire.
Non, c'est inquiétant, corrigea Nietzsche.
En quoi ?
Demanda le prophète, qui détestait la contradiction.
Les connaissances ne sont jamais inquiétantes.
Nietzsche ne jugea pas utile de s'étendre sur la question.
Une armée marche sur le palais. « Vous avez aperçu les éclaireurs ?»
Nathan se rembrunit.
« Vous devriez me suivre. Je vais vous montrer quelque chose. »
Sans plus d'explications, le prophète se détourna et se dirigea vers la porte. Le large couloir était bondé de soldats de la première phalange. Armés jusqu'aux dents, ces hommes semblaient d'humeur maussade. Le colonel Zimmer, désormais l'officier le plus gradé du palais, accourut dès qu'il vit le petit groupe sortir de la salle de la slif. Quand il eut dévisagé tout le monde, il jeta un coup d'œil dans la pièce pour voir si quelqu'un d'autre allait en sortir. Puis il salua son seigneur en se tapant du poing sur le cœur.
« Seigneur Al, bienvenue au palais. Je suis ravi de voir que la mère inquisitrice et vous êtes indemnes. Ici, nous nous sommes beaucoup inquiétés. »
À l'évidence, l'officier était sincère.
« Mais je m'étonne, seigneur, que vous ne soyez pas revenu à cheval, en compagnie du général Meffert et du détachement envoyé à votre recherche. Pourquoi sont-ils absents ?»«
J'avais bien dit qu'ils arriveraient par la slif, »
marmonna Nathan.
Il croisa les bras et bomba le torse, fier de ne s'être pas trompé.
« Le général Meffert, » dit Richard, « le lieutenant Pfister et tous les soldats ont perdu la vie en tentant de nous protéger. Sans leur sacrifice, nous ne serions pas ici. »
« Tous morts ?»
souffla Zimmer, ébranlé. Richard hocha la tête.
« Colonel, le temps nous coule entre les doigts et nous avons des problèmes urgents à résoudre. Pour commencer, je vais te demander de remplacer Benjamin. Dès cet instant, je te nomme général de la première phalange. »
Zimmer salua de nouveau.
« J'accepte cette promotion, seigneur. D'un cœur lourd, mais... »
Richard tapa sur l'épaule du nouveau général.
« Je sais. Tu es l'homme de la situation, Zimmer. Avec toi, ceux que tu dois protéger seront en sécurité et leurs ennemis se pétrifieront de terreur. En digne successeur de Benjamin, tu seras la fierté de tes hommes. »
« Oui, oui, » bougonna Nathan. « Tout ça, c'est du réchauffé. Je l'ai prévenu qu'il serait nommé général. Ça figurait parmi mon lot de prophéties. Et maintenant, il faudrait y aller. »
Richard avait été un peu surpris par l'absence de réaction du colonel. À présent, il comprenait.
« C'est vrai, il me l'a dit récemment, mais j'ai cru que ce serait dans des années, pas aujourd'hui. »
« Les prophéties ne précisent jamais la date, »
grogna Nathan.
« Ça aussi, je vous l'ai dit. Les prophéties sont... »«
Tu veux nous montrer quelque chose ?»
coupa Richard. Nathan le dévisagea l'air sombre.
« Oui, suivez-moi. »
En avançant, Richard vit que les hommes qui se tenaient au bout du couloir étaient armés d'arbalètes chargées avec des carreaux à pointe rouge. Pour manipuler ces projectiles mortels, tous portaient des gants.
« Tu penses que ces armes arrêteront les morts ?»
La magicienne baissa les yeux sur l'arme d'un soldat.
« C'est possible ?»«
Seigneur Rall, »
fit le nouveau général perplexe,
« puis-je savoir ce que vous voulez dire par « arrêter les morts » ?»
Richard décida de sauter l'historique et d'entrer dans le vif du sujet.
« L'homme qui entend assiéger le palais » a le pouvoir de ranimer les cadavres. Ces morts sont très difficiles à neutraliser. Contre eux, les armes classiques sont impuissantes parce qu'ils sont animés à la fois par le don et par la magie noire.
Nathan se retourna, le front plissé d'inquiétude. Plusieurs soldats échangèrent des regards pleins d'incertitude.
« Comment peut-on les arrêter ?»
demanda Zimmer.
« Les lames sont sans effet puisqu'ils sont déjà morts, mais en frappant aux jambes et aux bras, on a une chance de les ralentir. » Le feu est une arme précieuse. Leur jeter de la poix dessus, puis l'embraser, a de bonnes chances de fonctionner. Le feu de sorcier de Nathan et de Nietzsche est lui aussi efficace, mais l'ennui, c'est le nombre d'adversaires. L'épée de vérité fonctionne aussi. Hélas, je n'ai pas pu l'emporter.
Richard se mit en chemin, mais il s'arrêta après quelques pas.
C'est quoi cette odeur? On dirait que quelque chose brûle.
Nathan tourna la tête vers un escalier aux marches de marbre.
« Tu connais la crypte où reposent nos ancêtres ?»«
Oui, chacun dans une salle différente et dans un catafalque sculpté. »«
C'est ça. Eh bien, par endroit, la pierre fond. »«
Pardon ?»«
Elle fond, oui. »
Richard se passa une main dans les cheveux et tenta de se remémorer un très ancien événement.
« Peu après que j'ai tué Darkenral, » un homme qui se disait le chef des serviteurs de la crypte, je crois, est venu dire à Zed que les murs fondaient dans le tombeau de Panisral.
Vraiment ?
Fit Nathan, le front plissé. Richard fouilla encore dans sa mémoire.
Oui, Zed a dit au type de sceller la crypte avec des pierres blanches. Attends, ça me revient. Des pierres blanches extraites de la carrière des prophètes. Zed a donné à l'homme une bourse remplie d'une poudre magique à mélanger au mortier. Il a précisé que le travail devait être bien fait, sinon le palais entier risquait de fondre.
« C'est ça qui fond, »
dit Nathan.
« Le mur de pierre blanche. Il est si chaud qu'on peut à peine rester devant le temps d'y jeter un seau d'eau, ce qui ne sert d'ailleurs pas à grand-chose. »
« C'est un sort qui le fait fondre ?»
« Pas à ma connaissance, mais comme nous avons eu d'autres soucis, je ne me suis pas vraiment penché sur la question. »
D'un geste, Nathan invita Richard à continuer son chemin.
Quelqu'un peut me fournir une épée ? Demanda celui-ci en se tournant vers les soldats.
Aussitôt, une dizaine d'hommes débouclèrent leurs ceinturons et le tendirent au sourcier, poignée de l'épée en avant.
Richard prit la lame d'un colosse qui portait en plus une hache de guerre sur la hanche droite.
Tout en bouclant le ceinturon, il remercia le soldat, puis il dégaina l'épée, l'examina et éprouva son équilibre.
Une bonne lame, apparemment.
En route !
Rika vint se placer devant son seigneur. En l'absence, hélas, définitive de Kara, elle entendait être sa garde du corps.
Assurant l'arrière-garde, Cassia et Val se placèrent derrière Kalan et Nichi.
Les deux morts de Sith avaient quitté le palais depuis longtemps. À l'époque, Darkenral était encore le maître de Dara. Même si elles avaient pris la succession de Kara, elles semblaient disposées à transmettre le flambeau à Rika.
Sans s'être consultées, comme souvent avec les femmes en rouge. Une harmonie qui ne manquait jamais de surprendre Richard.
Les hommes de la première phalange suivirent le mouvement.
Richard aurait aimé bombarder Nathan de questions, mais ce que le vieil homme voulait lui montrer l'intéressait encore plus.